D'habitude, je projette ce film avant d'avoir un débat avec le public du film. C'est pas habituel pour moi de faire une conférence avant de faire un débat, donc j'espère que vous serez un petit peu indulgent. Ouais, si j'ai fait un film, c'est pour ne pas justement me retrouver dans la situation de faire une conférence. Bon, je le recommande, mais on va ce soir faire une petite conférence. Bien. Alors, on me présente comme philosophe. Bon, c'est gentil. C'est plutôt plaisant comme appellation. J'ai une formation en philosophie, c'est sûr, plus précisément en philosophie des sciences. Je l'ai considéré, l'étude de la philosophie, pour moi, comme un détour, en fait. J'ai toujours voulu faire des films. Mais plutôt que de faire une école de cinéma, j'ai préféré faire des études de philosophie. Par la suite, j'ai toujours lié la philosophie avec les questions politiques, les questions d'actualité, de société. Et donc j'ai aussi eu un passage assez long au niveau professionnel et puis ensuite dans des milieux autogérés, dans le social, on va dire. Ouais, je travaillais dans les cités à Montreuil et puis après j'étais dans un lieu autogéré où on s'impliquait beaucoup dans le politique et aussi dans le culturel, voilà, donc voilà. La frontière entre tout ça. Mais pour moi, tout ça, c'est un peu lié, c'est mon cheminement, en fait. Voilà. Philosophie, questions sur la société, philosophie des sciences, politique. Et en définitive, la réalisation de ce documentaire, ça a été l'occasion de faire converger tous ces cheminements. C'est en 2003... quand je suis retourné sur Grenoble, où j'avais fait mes études en partie donc de philosophie, qu'en discutant avec un ami, il me parle des nanotechnologies. Et j'en comprends assez vite les implications. Et à ce moment-là, je m'étais dit, bon, moi j'avais 33 ans, je me dis, bon, il serait temps que je réalise un long métrage, un documentaire. Et j'étais dans ce questionnement de réaliser un premier film. Et je me suis dit que je tenais là un sujet. Un sujet, mais surtout une manière pour moi de pouvoir vraiment m'exprimer aussi. Exprimer mes idées, en quelque sorte, sur la société dans laquelle nous sommes et son devenir. Après, ce film m'a entraîné beaucoup plus loin que ce que je pensais. C'est-à-dire que, d'abord, j'ai eu du mal à le faire produire. Parce que j'allais voir des producteurs en 2004, donc je leur disais, voilà, je veux faire un film sur les nanotechnologies, les technologies convergentes, mais je voudrais tout de suite dire les questions qu'elles posent, ces nouvelles technologies. Et là, les producteurs, en général, me disaient, n'allons pas si vite, fais d'abord un film qui explique de quoi il s'agit, et puis on verra après, pour faire un deuxième film qui pose les questions. Alors, comme j'étais pas vraiment de cet avis-là, que je pense qu'il était possible de faire les deux à la fois, de ce point de vue-là, le film d'ailleurs n'est pas, on peut dire, pédagogique, hein, c'est pas un film qui va détailler la manière dont on fait des nanotechnologies, puisqu'il va très vite vers les questions, mais donnant quand même aux spectateurs des indices, des indications, des sources qui lui permettent de poursuivre son auto-formation. Puisque c'est un film qui n'a pas de commentaires, qui n'a pas de voix off. Je ne prends pas le spectateur par la main, je ne considère pas que le spectateur est bête, en fait, et je ne lui dis pas ce qu'il doit penser. C'est un film qui tend à poser des questions et à inviter le spectateur à se questionner et à se renseigner, à se documenter. Et moi, ce que je pensais, c'était, en fait, avec ce film, fournir aux associations militantes, déjà engagées pour certaines, que ce soit sur le nucléaire, les OGM, donc des sujets, on va dire, connexes, c'est-à-dire ceux qui remettent en question les choix scientifiques et techniques qui sont faits dans nos sociétés, ou que des nouvelles associations, que de nouvelles organisations militantes émergent liées avec le développement des nanotechnologies, et que je pensais que j'allais leur remettre le bébé, voilà, prenez ça et faites du débat public. ça s'est pas vraiment passé de cette manière-là. Alors voilà, déjà donc il a fallu que je l'autoproduise. Ensuite il a fallu que donc je l'autodistribue et puis après il a fallu que je l'accompagne. Pendant 5 ans, j'ai dû faire à peu près 250 projections débat. Il y en a eu un peu plus, mais parce que j'étais pas là à chaque fois, pour accompagner le film, pour faire du débat. Parce que j'ai longtemps résisté à mettre le film sur Internet, parce que cette dimension justement du débat public, de la projection collective, et de la possibilité de se retrouver ensuite et de discuter ensemble de tout ça, me paraissait vraiment importante. Donc je l'ai mis très tardivement, en fait je l'ai mis l'année dernière sur Internet. On en trouvait quand même des versions parfois tronquées sur le net, mais j'ai même lutté parfois contre la publication de ce film sur Internet. C'est un peu paradoxal parce que ce film est fait d'images issues d'Internet. Je me suis moi documenté essentiellement sur Internet. Je suis allé chercher à l'époque. Quand je le réalisais, donc, vous imaginez que Dailymotion et YouTube étaient à peine naissants. Donc, il n'y avait rien sur ces plateformes-là de vidéos, et encore moins sur ce sujet. Donc, la recherche était un peu plus ardue. Et donc, c'est essentiellement sur des sites d'universités, de labos, mais après, des sources très, très variées, très hétérogènes. Et arriver avec ces sources très variées à faire un discours. Et ça m'amusait de le projeter sur la toile de l'écran, c'est de se retrouver cette image hyper pixelisée d'Internet projetée sur un écran de cinéma. Pour moi, c'était un pur plaisir esthétique, mais parfois partagé, pas toujours par le spectateur. Ce qui a été une bonne aventure quand même, parce que tous ces débats, toutes ces projections, parce que je suis allé dans tous les milieux. Il a été projeté aussi bien dans des milieux scientifiques et avec des directeurs de labo, des gens du milieu de la recherche, que des lycées, des squats, des cafés, des salles de cinéma, heureusement aussi, des festivals. Il a été, voilà, ça a été vraiment assez passionnant. Et puis aussi, très souvent quand même, avec ce que j'appellerais la famille, en quelque sorte, c'est-à-dire une certaine famille de militantes. Et donc ça m'a permis de faire un peu le tour de France des gens qui veulent qu'il y ait qui veulent résister un petit peu à ce qu'on nous impose, à l'ordre libéral des choses et ça a été assez agréable aussi comme balade. Voilà. Donc l'enjeu de ce film, c'est de politiser les questions scientifiques et techniques. Donc elles le sont quand on parle du nucléaire ou quand on parle des OGM. Là, c'est un nouveau champ. C'est pas évident, en fait, de remettre en question les sciences et la technique. On a tendance plutôt dans la société, en gros, à boire comme du petit lait la parole des scientifiques et des experts en tout genre. Et on considère souvent qu'on n'a pas le bagage, qu'on n'a pas les connaissances, et puis souvent aussi les chercheurs ont assez facilement tendance dans leur discours à dire « Oui, mais bon, vous n'y connaissez rien, donc écoutez-moi, moi je sais, je vais vous dire ce qui est vrai et ce qui est bon ». J'ai souvent eu aussi affaire justement à ça dans des débats, dans des salles de cinéma où quelques chercheurs qui se sentaient mis en cause par le film voulaient monopoliser la parole et dire qu'eux étaient en situation supérieure par rapport aux autres personnes là dans la salle. J'ai réussi la plupart du temps à démonter cette attitude, cette posture. Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui est assez présent. C'est présent aussi chez les politiques, en fait, parce que les politiques, en général, n'ont pas de culture scientifique particulière, et donc ils s'en remettent aussi aux experts, aux scientifiques, pour qu'ils leur disent ce qu'il faut faire, et là, ils s'en remettent aveuglément. Hein, on ne peut pas dire qu'en fait, le champ scientifique et technique soit vraiment un champ politique pour l'instant. Et c'est dommage, parce qu'en fait, le développement de nos sociétés est adossé à ce développement. On le voit. Hein. Le film l'exemplifie à travers l'usage d'Internet, justement. La première image, c'est le champ de recherche Google. Et tout le monde y est en est familier dans la salle, alors même que ça a maintenant 18 ans d'âge. Quoi. C'est vrai que ça commence à le faire. Mais voilà, le téléphone portable, Facebook, les réseaux sociaux. Et on s'aperçoit que les choses vont assez vite, et pour autant, on questionne pas ce développement. Bon. Je me demande si mon plan m'aide ou s'il me gêne, en fait. Donc, je vais vous parler des... Ce soir, on va parler des nanotechnologies. C'est vrai que le film s'appelle « Le silence des nanos ». En fait... ouais, c'est un jeu de mots. J'ai capté. Mais en fait, je dis souvent que c'est pas un film sur les nanos, en fait. Les nanos servent de prétexte pour poser les vieilles questions auxquelles tu faisais allusion, c'est-à-dire notre rapport à la technique, notre rapport à la nature, et la manière dont les techniques aussi changent nos rapports sociaux, ou peuvent peut-être aussi à terme changer l'identité humaine, que ce soit par le biais d'une hybridation avec des machines, ou bien par la modification génétique ou autre. On peut envisager aujourd'hui de modifier ce que c'est qu'être humain. Donc c'est quand même des questions qui sont assez profondes. Mais je crois que ces questions, elles existaient déjà bien avant l'arrivée sur la scène de la nanotechnologie, et qu'elles vont continuer d'exister. Sauf que, avec elles, en tout cas, avec les nanotechnologies, si on ne se pose pas les questions, si on ne se réunit pas entre nous, si on ne fait pas de débat public là-dessus, on va être pris par surprise, en quelque sorte, par ce développement. On va le subir, en fait. Et donc c'est pour ça qu'il me semble important qu'on ait ce genre de débat. Même si c'est petit, on a un petit comité, ça ne concerne vraiment pas tout le monde, mais ça me paraît, en tant qu'être humain, en tant que vivant ensemble, faisant partie de la même société, assez fondamental. Bon, alors, faut peut-être, j'imagine que parmi vous, il y en a qui savent un peu ce que c'est que les nanotechnologies, d'autres pas du tout. Ça doit être, voilà, j'imagine que tout le monde n'est pas tout à fait au même niveau. On fait souvent remonter dans l'archéologie qui a été faite a posteriori de l'histoire de ces sciences. On fait souvent remonter à Richard Feynman, qui était un physicien américain, un des pères de la bombe A, du projet Manhattan. On fait souvent remonter à une de ses conférences qui s'intitulait « There is plenty of room at the bottom », ce qui veut dire « il y a beaucoup d'espace tout en bas », c'est-à-dire tout en bas de l'échelle des phénomènes, au niveau des atomes et des molécules, il y a beaucoup d'espace pour de nouvelles applications. À cette époque-là, on n'avait pas des microscopes qui permettaient de voir à l'échelle des atomes, il n'y avait pas... la nanotechnologie n'existait pas encore. Et en fait, cette conférence, elle a été prononcée le 29 décembre 1959, et c'était donc au moment des fêtes de fin d'année. On avait demandé à Richard Feynman, lors d'un rassemblement entre les physiciens américains, de prendre la parole, mais c'était surtout dans le but d'une bonne plaisanterie, en fait. On savait que c'était quelqu'un qui était très sociable, très, très fantasque, un peu crâneur et tout ça. Et il était là pour animer la soirée. Alors aujourd'hui, on dit qu'il a, avec cette conférence, fondé les nanotechnologies. Son idée, c'était la suivante, c'était que on allait pouvoir réassembler les atomes, réassembler les molécules et fabriquer avec des atomes et des molécules à toute petite échelle des choses telles que celles qu'on faisait déjà à l'époque, qu'on fait à grande échelle. Une voiture, par exemple, mais de la taille d'une molécule, ou bien un ordinateur qui serait de l'ordre de cette échelle-là. Donc voilà, il était dans l'imagination, là. Il était en train de s'amuser, de spéculer. Et il a lancé une idée, il a dit, bon allez, je lance un prix qui existe toujours, le prix Feynman. Il a dit, j'offre 1000 dollars à celui qui réalisera un petit moteur d'un centimètre cube. L'année d'après, ça a été fait. Et donc 1000 dollars à l'époque, ça a dû lui coûter un peu, c'est sorti de sa poche. Donc les nanotechnologies, d'un côté, c'est ça, c'est la miniaturisation. Donc pour fixer un peu les idées, nano c'est du grec nain. Ça veut dire le milliardième. Donc on avait dans les années 70, 80, 60, je sais pas, les micro-technologies, hein, le millionième de mètre. Tout ce qui a été le développement des puces sur silicium, mais aussi en biologie, il y a des équivalents au niveau de la cellule. Voilà, on est à cette échelle-là de la cellule, du millionième de mètre. Avec les nanotechnologies, donc on change d'échelle, 1000 fois plus petit, donc on est là à l'échelle des constituants de la cellule. Un brin d'ADN mesure à peu près 2 nanomètres de côté, enfin de diamètre. On est dans ces échelles-là, c'est vraiment infime, c'est comme si c'est à peu près 10 atomes l'un à côté de l'autre, ça fait un nanomètre. Donc on est à l'échelle des atomes et des molécules. Avant de poursuivre dans ce sens-là, le philosophe dont un des ouvrages est là, pour un catastrophisme éclairé, qui a son premier succès de librairie, mais certainement pas son meilleur ouvrage, lui dit que c'est plutôt une autre conférence qui a eu lieu 10 ans plus tôt par un autre physicien qui s'appelle John von Neumann, qui lui était aussi dans le projet Manhattan, mais il est aussi le père de la bombe H, de pas mal de choses, de l'ordinateur, de l'architecture des ordinateurs, on appelle l'architecture von Neumann. Donc la manière dont sont constitués le rapport entre mémoire vive, disque dur, processeur, etc. Enfin, l'architecture de l'ordinateur, c'est von Neumann qui l'a théorisé. C'était un génie, hein, vraiment. Certainement, on le connaît peu dans le grand public, von Neumann, mais c'était certainement un des physiciens les plus brillants du XXe siècle, un ingénieur physicien. Et en 49, au même endroit que 10 ans plus tard, Feynman fait sa conférence, il a fait une conférence sur les automates cellulaires. En fait, sur la possibilité d'imaginer un automate au sens propre du terme, c'est-à-dire qui possède en lui-même son propre mouvement et qui serait possible, qui serait capable, par exemple, de s'auto-répliquer, d'avoir sa propre essence. En quelque sorte, c'est comme une sorte de vie artificielle, le prototype d'une vie artificielle. Et l'objet de sa conférence était de montrer qu'il n'y avait aucun obstacle logique à fabriquer un automate cellulaire qui aurait donc son propre mouvement en lui-même, capable de se reproduire. On n'arrive toujours pas à le faire, cet automate. Mais il a démontré la possibilité théorique d'un tel automate. Alors, quel lien avec les nanotechnologies ? C'est que dans le processus de miniaturisation, qui est propre donc au nano, des chandres donc encore 1000 fois plus petits, ça va être très difficile de fabriquer les choses comme on avait l'habitude de les faire. En gros, depuis Cro-Magnon jusqu'à aujourd'hui, on a toujours procédé de la même manière pour fabriquer des objets. C'est-à-dire, on part de grand et puis on fait de plus en plus petit, on enlève de la matière, on sculpte la matière et on essaie de réduire. Comme par exemple, quand on fabrique les puces sur silicium, on fabrique des dessins qui sont très grands et qu'ensuite on va projeter sur le silicium à une échelle plus petite. Et puis on va graver, on va passer des acides qui vont retirer la matière en trop et on va se retrouver avec une puce sur silicium. Donc que ce soit fabriquer des silex en les grattant ou des puces sur silicium, grosso modo, l'approche est la même, qu'on appelle top-down, du haut vers le bas. Là, à cette échelle-là, ça coûterait... On peut le faire, on peut prendre par exemple ce qu'on a créé dans les années 80 les microscopes à effet tunnel, ils peuvent attraper un atome, l'enlever, en prendre un autre, le mettre à côté, etc. On peut le faire, mais simplement, au niveau industriel, ça coûterait les yeux de la tête de fabriquer une feuille de papier. Donc, ce n'est pas très rentable. Donc, l'idée, c'est de renverser la démarche et d'utiliser les capacités de la matière à s'auto-assembler, voire plus tard à s'auto-organiser. Et donc, c'est une démarche ascendante, bottom-up, on appelle. Où là aussi, par exemple, la vie qui est dans cette démarche-là, on le sait, hein, parce que d'une cellule, il en est deux, puis quatre, puis etc., jusqu'à ce qu'un organisme entier émerge. Donc la vie est bottom-up, par nature. Donc on va pouvoir aussi utiliser la vie comme un outil pour pouvoir fabriquer des artefacts, c'est-à-dire la capacité de l'ADN à se répliquer, à donner des formes. Et c'est cette démarche qui, à mon avis, est déterminante dans le cadre des nanotechnologies pour pouvoir faire de la production à grande échelle. Je ne sais pas si vous suivez là pour l'instant, c'est un peu de... Oui. Alors, à cette échelle nano, qui est l'échelle donc des constituants de la cellule ou bien de quelques atomes, etc., on n'est pas à l'échelle du vivant, on est à l'échelle des éléments de la vie du vivant. Protéines, ADN, choses comme ça. L'ADN n'est pas vivant, c'est la cellule qui est vivante. Et en fait, on assiste tout de suite à ce qu'on a appelé une convergence des technologies. C'est-à-dire, on fait à cette échelle-là, en fait, de manière quasi indifférenciée, et de la physique, et de la biologie, des sciences de l'informatique. En fait, on assiste avec les nanotechnologies à ce qu'on a appelé la convergence des technologies. C'est-à-dire qu'on fait travailler des équipes pluridisciplinaires qui vont travailler ensemble à produire, par exemple, des futurs nanorobots ou des choses comme ça qui seront à la fois donc, de la robotique, de la biologie, qui vont engager aussi des chimistes, etc. Oui, peut-être que je saute un passage. C'est dans les années 80 en fait que le programme démarre, le programme Nano, tel qu'il existe, tel qu'il se développe aujourd'hui, dans le milieu des années 80. C'est un ingénieur qui s'appelle Eric Drexler, qui est à l'époque, je crois, au MIT. Il est l'élève de Marvin Minsky, qui lui est un des pères de l'intelligence artificielle. Et lui, il va rassembler les idées de Feynman, les idées de von Neumann et les idées de Minsky sur l'intelligence artificielle pour dire que voilà, on va pouvoir fabriquer des nanorobots, par exemple, qui seront capables de produire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que ces nanorobots, à l'échelle des atomes, vont pouvoir... Voilà, prendre des atomes et les assembler et produire n'importe quel objet. Ça pourrait être aussi bien un sandwich qu'une voiture, qu'un ordinateur, à partir de l'assemblage d'atomes. Le premier problème, c'est de concevoir ce nanorobot. L'autre, c'est qu'un seul nanorobot, pour produire une feuille de papier comme celle-là, assemblant des atomes même à toute vitesse, il faudrait des milliers, voire des millions d'années pour faire une simple feuille de papier A4, donc c'est pas très rentable. Donc pour ça, il faudrait qu'il y ait des millions de nanorobots qui travaillent ensemble pour fabriquer cette feuille de papier dans un temps raisonnable. Donc il faut fabriquer des nanorobots capables de fabriquer d'autres nanorobots. Donc ça, c'est les idées de Drexler au milieu des années 80. Il est pris pour un fou à l'époque, hein, c'est normal. Il est pris pour un fou à l'époque, parce que bon, bah, il dit tout ce qu'on va pouvoir faire de merveilleux avec ces nanorobots. Mais néanmoins, les gens vont de plus en plus souvent à ces conférences et aujourd'hui, son programme, il est appliqué partout dans le monde. C'est devenu les idées de Drexler ont percolé dans toute la communauté scientifique. Même si, en fait, aux États-Unis, particulièrement, cette idée de nanorobot capable de s'auto-répliquer fait un peu peur à l'époque, enfin un peu plus tard, dans les années 90. Parce qu'on se dit, mais si on n'arrive pas à contrôler l'expansion de ces nanorobots, ils vont utiliser tous les atomes à disposition pour leur réplication, et puis il n'y aura plus rien sur cette planète que des nanorobots. Ils vont utiliser tous les atomes présents. Même des projections, des calculs ont été faits, vous savez, un peu sur le modèle des grains de riz sur l'échiquier. À partir d'un nanorobot qui en produit deux, etc., on arriverait à ce qu'ils ont appelé la gelée grise, c'est-à-dire que la planète soit recouverte d'une espèce de gelée de nanorobots, en 48 heures. Alors, c'est sûr que d'un simple oups dans un laboratoire, hein, si on n'arrive pas à contrôler le phénomène, ça peut vite dégénérer. Bon, non. Cela dit, pour l'instant, a priori, on n'a toujours pas fabriqué ces robots-là. Hein. Alors pour l'instant, qu'est-ce qu'on fait en fait avec les nanos? Parce que ce rêve-là, ce délire-là de fabriquer ces nanorobots ou d'avoir imaginé des nanorobots qui pourraient aller dans le corps humain pour le réparer, pour faire du diagnostic dans les cellules, parce qu'un nanorobot pourrait rentrer dans une cellule, ça se fait au niveau du laboratoire en tube à essai. Un laboratoire israélien, le Technion Institute, dit avoir réalisé à base d'ADN une sorte de nano-bio-robot, hein, c'est-à-dire un mélange entre science de l'informatique, science biotechnologique, une espèce de nano-ordinateur capable de rentrer dans une cellule, d'effectuer un diagnostic de la cellule et de produire, de synthétiser sur place éventuellement le médicament nécessaire ou de détruire la cellule si c'est ce qu'il faut faire. Donc ce projet-là est toujours celui qui est en cours aujourd'hui, hein, celui de Drexler, le délire de Drexler, continue de faire l'objet de programmes de recherche. Alors ça veut là où il a joué très bien Drexler et c'est que en fait il a dit voilà, avec ces nanorobots on va pouvoir tout créer, on peut aussi tout détruire, donc on a l'arme absolue, hein, avec la même, en fait, avec le même nanorobot qui serait capable d'aller guérir un cancer ou ça, on peut aussi tuer quelqu'un de la même manière. C'est le même. C'est ce qu'on appelle l'aspect dual des technologies. Mais autant dans le nucléaire, par exemple, il y a un aspect dual aussi. Il y a les armes, les bombes atomiques d'un côté, et puis le nucléaire civil de l'autre, mais qui sont quand même des technologies très distinctes. C'est à la limite plus facile de faire une bombe qu'une centrale nucléaire. Alors que là, il y a, la dualité est plus sensible, plus immédiate, parce que ce sera exactement la même technologie qui permettrait de guérir ou de tuer. Donc là, les questions sont plus. Il a été très fort, donc Drexler, en montrant les capacités de ses idées, de ses potentiels nanorobots. Parce que donc il a rencontré le désir de domination et de toute puissance technologique qu'ont les Américains, qui maintiennent leur suprématie sur le reste des autres nations, justement par leur avance technologique essentiellement. Et Bill Clinton a transformé la recherche en nanotechnologie, technologie convergente, en ce qu'on appelle de la big science, c'est-à-dire qu'en y allouant des budgets colossaux, des milliards. Ça a représenté tout de suite beaucoup plus que ce qu'avait été le financement du projet Apollo aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on a fait vraiment couler des mannes d'argent public via la National Science Foundation dans tous les laboratoires, que ce soit privés, publics, la NASA, les universités, pour peu qu'ils fassent des nanotechnologies. L'Europe, du coup, n'a pas voulu rester en reste, bien sûr, et donc la course aux nanotechnologies a été lancée au début des années 2000. Pour autant, on faisait déjà donc des nanotechnologies avant. On faisait essentiellement ce qu'on peut appeler des nanomatériaux, des nanoparticules. Et c'est toujours ce qu'on fait le plus massivement encore aujourd'hui. Pour vous donner... Alors en France aussi, du coup, on s'est mis à investir massivement dans la foulée des Américains dans les nanos, à tel point que les chercheurs s'en plaignaient quelque part. Ils disaient, mais bon, si on ne met pas nano dans l'intitulé de notre recherche, on n'a pas d'argent. Donc du coup, il y avait des projets presque qui rajoutaient le mot nano, comme ça, par un biais ou un autre, de façon à être crédible. Crédible. En France, donc aussi, c'est un investissement qui était déjà dans les années 2004, par là, 2005, un budget plus important que ce qu'avait été le budget du projet nucléaire en France dans les années 70. Donc vraiment des investissements colossaux, notamment à Grenoble, j'imagine, bon, certains le savent, c'est là qu'en France, on a les plus gros centres de recherche en nanotechnologie. Que c'est pas un centre, il y a Minatex qui a été inauguré en 2008, où se retrouvent aussi bien des entreprises publiques, CEA en tête, CNRS et autres, mais aussi privées, avec des entreprises qui font aussi bien dans l'électronique que du médical, que, on fait de tout avec les nanotechnologies. Donc c'est pas seulement un pôle français, c'est un pôle européen, c'est un pôle mondial, Grenoble. Il y a trois pôles équivalents dans le monde, il y en a un qui est dans la Silicon Valley, il y en a un donc à Grenoble, et puis il y en a un autre au Japon. Mais c'est pas seulement chez ces trois grandes régions. À Shanghai, il y a plus de chercheurs en nanotechnologie que dans toute l'Europe de l'Ouest. Donc c'est partout. Les Africains aussi veulent faire des nanotechnologies, ils en veulent. Tout le monde veut faire des nanotechnologies aujourd'hui. Pour vous donner un peu une idée, parce qu'on peut se dire, bon, tout ça, bon, les nanorobots, on n'en verra peut-être jamais, à quoi ça sert, tout ça. En fait, des nanoparticules, il y en a déjà un peu partout dans notre environnement. Des nanoparticules, c'est-à-dire fabriquées par l'industrie. On en met partout, on en met dans ce qu'on appelle les matériaux en général. Ça touche autant la cosmétique, il y en a dans les crèmes solaires, il y en a dans les crèmes en général, qu'elles soient anti-rides ou autres. Dedans, il y a des nanotubes de carbone, par exemple, certaines crèmes anti-rides. Ça doit servir de tenseur, j'imagine. Il y en a dans les jouets pour enfants. Dans les plastiques en général, il y en a dans les pneus de voiture pour les rendre plus résistants. On utilise beaucoup le nanotube de carbone dans l'industrie en général, parce que c'est pas cher. En fait, quand on a produit pour la première fois des nanotubes de carbone dans les années 90, ça coûtait 1 million d'euros le gramme à produire. Aujourd'hui, ça vaut déjà beaucoup, beaucoup moins cher. Il y a plusieurs usines qui en produisent en France. Le but, c'est que ça coûte le même prix qu'une stère de bois à produire. Donc, si les États investissent là-dedans, bon, bien sûr, c'est pour l'avance technologique, c'est pour le militaire, c'est pour. Mais si les industriels aujourd'hui investissent aussi maintenant plus que les États là-dedans, c'est parce qu'ils y voient des ressorts de croissance exponentiels. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même d'arriver à produire pour des sommes ridicules, des choses qui soient beaucoup plus performantes que celles qu'on connaît jusqu'à présent. coûterait donc beaucoup moins cher à produire. Alors on en trouve dans les matériaux de construction. L'idée étant toujours de rajouter des nouvelles propriétés. Ça peut être bactéricide tout simplement, dans les peintures, par exemple dans les hôpitaux, on met des peintures bactéricides, c'est pas con. Dans les revêtements des frigos aussi, hein, du nano-argent, dans les emballages alimentaires. C'est massivement employé, hein, c'est pas à la marge. Hein. On imagine qu'en 2016, plus de la moitié des produits qu'on pourra acheter contiendront des nanoparticules. C'est déjà aujourd'hui, au moins plus de 30%, 40% des produits qu'on trouve dans la consommation courante contiennent des nanoparticules.
Y compris des aliments.
Alors, y compris les aliments.
Des vêtements aussi.
Y compris les vêtements. C'était bien, on va commencer sur les questions.
Alors, j'ai entendu dire dans le chocolat, est-ce que c'est vrai?
Oui.
Ça sert à quoi?
Alors, c'est le nanosilice qu'on utilise dans l'alimentation le plus souvent, pour éviter que le chocolat blanchisse, dans le chocolat en poudre, pour éviter qu'il se coagule. C'est pour faire à chaque fois émerger c'est pour des nouvelles propriétés, hein, c'est vachement intéressant. C'est pour voilà, l'aspect bactéricide du nano-argent dans les emballages alimentaires ou les frigidaires, ou bien dans certaines boules de lavage ou machines à laver qui en contiennent aussi. Le nanotube de carbone est essentiellement utilisé pour renforcer les matériaux, les structures, ou pour leur donner des propriétés électriques, qui peuvent être intéressantes après pour utiliser un peu moins de peinture, pour peindre une carrosserie, ou des choses comme ça. Donc c'est... mais on en trouve partout, il n'y a pas d'étiquette, hein, bien sûr, sur le
on se pose des questions quand même.
Oui.
Si on voit le vêtement anti-UV, quand même, on se dit, il y a un truc là.
Voilà, oui. Alors c'est très difficile, par exemple, de trouver un pansement qui ne soit pas antibactérien. Moi j'en cherche parfois, j'ai du mal à en trouver, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent pas de nano-argent. C'est très très difficile. Ça va devenir impossible très bientôt de trouver des produits qui ne contiennent pas de nanoparticules. Et pour autant, on ne le sait pas, hein, on est d'accord. Là, récemment, l'Agence nationale sur la sécurité alimentaire vient à nouveau de produire un rapport, mais ce n'est pas le premier, tirant encore la sonnette d'alarme pour dire, on a aujourd'hui, donc en France, on produit 280 000 tonnes de nanomatériaux. On en importe autant, donc ça fait un peu plus de 500 000 tonnes de nanomatériaux qui sont donc des produits cosmétiques. En voyant bien que, je ne sais pas, par exemple, un verre rempli de nanotubes de carbone, ça ne pèse rien. Ça pèse rien. Donc 500 000 tonnes, c'est un volume impressionnant. Et ils disent, on fait quand même très peu d'études. C'est ce que dit l'agence. Hein. Il n'y a malheureusement pas assez d'études qui sont faites sur les risques, sur les conséquences sanitaires, toxicologiques, sur l'environnement aussi, l'impact sur l'environnement. Tout ce nano-argent qu'on met dans les chaussettes pour qu'elles ne sentent pas mauvais, ou qui sont dans les revêtements un peu partout, tout ça, finissent par se retrouver dans l'eau, bien sûr. Dans l'eau, elles se retrouvent dans les stations d'épuration, où elles continuent d'être bactéricide. Or, on a bien besoin des bactéries dans les stations d'épuration. Donc, on sait que ça va poser des problèmes. C'est évident, il n'y a même pas besoin d'être... Justement, je parlais au départ, le scientifique, il a le savoir, et nous, on ne l'a pas, on l'écoute gentiment, mais il n'y a pas besoin d'être fort en maths pour se douter que ça peut poser quand même quelques problèmes. D'avoir ces nanoparticules antibactériennes dans les stations d'épuration, qui risquent du coup de plus du tout remplir leur office. En France, on est assez nul, hein, là-dessus. Hein. En Allemagne, là encore récemment, il y a eu rencontre entre des industriels, des consommateurs, des chercheurs, etc., pour parler de ce problème-là, de la pollution de l'eau, par les nanoparticules. En France, il y a un laboratoire quelque part qui travaille sur cette question-là, c'est bien tout. Financé par l'Agence nationale pour la recherche.
Le nuage s'arrête toujours dans le Mercantour.
Par là, oui. Mais bon, encore une fois, enfin, c'est vrai que c'est un vrai problème. Hein, il serait assez sain, et c'est ce que demandent, par exemple, les ETC Group. Je ne sais pas si vous connaissez les ETC Group, ceux qui luttent contre les OGM depuis longtemps le connaissent peut-être. Ça s'appelait Rafi avant. C'est eux qui, dans les années 80, ont été, même avant, les 70, ont été les premiers à alerter sur les risques liés aux OGM. Non seulement les problèmes économiques, sociaux que posent les OGM, mais aussi les risques environnementaux, etc. C'est eux aussi qui ont été les premiers, à la fin des années 90, à attirer l'attention sur les nanotechnologies, les nanomatériaux, avec moins de succès que sur les OGM. J'ai personnellement participé, en fait, par exemple, à une rencontre dans le sud de la France, hein, donc par ici, là, au-dessus de Montpellier, avec les mêmes que ceux qui s'étaient réunis dans les années 80. Il y avait Vandana Shiva, Pat Mounet, tous les gens qui s'étaient réunis à l'époque pour parler des biotechnologies, des OGM, et qui avaient publié une plateforme très, très claire à l'époque. Hein, comment s'appelait ce... où ils avaient dit, bon, il y a des bons aspects à la recherche sur les OGM, pourquoi pas. C'est vrai que faire de l'insuline avec des plantes de tabac, si c'est confiné, si c'est un peu contrôlé, on va pas... C'est ça que disait la plateforme, hein, on va pas dire non au progrès, qui peut être bénéfique pour la santé ou autre. Mais par contre, les expérimentations en plein champ, ou bien les techniques Terminator ou les choses comme ça, ça, non, on n'en veut pas. Ils avaient pu produire une plateforme très claire, un positionnement très clair qui a servi de point d'appui à Via Campesina, à ici la Confédération Paysanne, pour pouvoir s'opposer aux OGM, avec le succès qu'on connaît quand même, hein, c'est pas négligeable. Hein. Donc c'était les mêmes gens là, puis moi j'y étais parce que bah, y a pas grand monde qui est en France. Bah voilà, apparemment il n'y a pas grand monde qui pouvait participer à cette table ronde parmi les Français, donc j'y étais. Et bah, c'était très décevant, parce qu'en fait, il n'y a pas eu la rédaction à la fin d'une plateforme aussi claire. C'est vrai que vraiment le sujet est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus lourd, touche tous les secteurs de l'industrie, c'est pas un secteur. Par exemple l'amiante, parce qu'on compare souvent par exemple le nanotube de carbone à l'amiante. Mais l'amiante, au bout du compte, ça a concerné une profession. Les gens qui ont fabriqué l'amiante et les gens qui ont manipulé l'amiante pour isoler des lieux, ça a concerné un groupe spécifique. Le nanotube de carbone, il est partout. On va tous être concernés. Et pour le coup, les usines, il y en a une dans les Pyrénées, là où il y a ce gros centre chimique, dans les Pyrénées, il y a une usine de production de nanotubes de carbone. C'est incroyablement sécurisé. Il y a des toxicologues passent là avec des appareils de mesure. Il n'y a pas un nanotube de carbone qui traîne à l'extérieur. C'est hyper confiné. Par contre, après, quand ces nanotubes de carbone qui ont été produits là vont chez Renault ou n'importe où pour être utilisés, là, il y a déjà beaucoup moins de protocoles mis en place. Quand ensuite l'usager s'en sert, voilà, personne n'est au courant. Et pour ce qui est du recyclage, on n'y a même pas pensé. Donc, parce que si on... Donc il y a quand même quelques soucis qui se posent. Mais le problème étant que ça touche tellement de domaines qui vont du matériau, la médecine, de l'énergie. Font que là, à cette rencontre, il y avait essentiellement des représentants des milieux paysans, en fait. Alors, certes, on utilise beaucoup les nanoparticules dans les enrobages, déjà, des graines, depuis longtemps, mais c'est qu'un secteur de la société, alors qu'il y aurait dû y avoir des représentants de plusieurs secteurs. Il aurait dû y avoir des médecins, il aurait dû y avoir des juristes aussi, parce que ça fait quand même beaucoup de problèmes juridique, mais malheureusement, bon. Et du coup, bon, le résultat n'est pas nul, hein, loin de là, hein, mais il n'aura jamais la portée et ne permettra pas du tout que se mette en place des formes de résistance aux nanos et aux technologies convergentes équivalentes à ce qu'on a pu voir avec les OGM. Qu'est-ce que je pourrais dire pour finir
On a fait des recherches, je disais qu'il y a un labo qui a fait des recherches. Est-ce qu'on a vu des effets particuliers? Bon, moi j'ai entendu dire que le problème c'est que ça passe à travers une paroi de cellules, les doigts dans le nez. Bon, donc ça on l'a constaté. Après, si ça fait 15 ans qu'on s'amuse avec ça, on a bien dû voir ce que ça fait sur les cellules.
Alors, il y a eu, par exemple, notamment sur certains nanotubes de carbone, je vais faire une réponse en deux temps, en fait. Les quelques expériences qui ont été faites, les quelques protocoles qui ont été mis en place pour voir sur des rats, sur des poissons aussi, ce que ça pouvait causer d'être exposé à certaines nanoparticules, ont montré que ça causait des problèmes, que ça pouvait créer des lésions. De toute façon, j'ai lu certains toxicologues qui ont tendance à dire plus c'est petit, plus ça risque de faire de dégâts, en fait. Parce que justement, plus ça va s'immiscer et perturber l'ADN, perturber les fonctionnements infimes. C'est un peu aussi ça l'amiante, hein. C'est très 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 petites fibres qui donc vont s'immiscer dans le poumon et pas en sortir et puis finir par faire de l'inflammation. C'est pareil là avec ces nano machins. Ça va s'immiscer facilement, rentrer dans les parois cellulaires, perturber le fonctionnement normal de la cellule. Donc oui, a priori, plus c'est petit, plus potentiellement c'est dangereux, en fait, malheureusement. Alors il y a des particules. Alors les scientifiques, ils adorent noyer le poisson d'une certaine manière. Hein. Enfin, en tout cas, je dis les scientifiques, attention, hein, je ne jette pas la pierre aux scientifiques en général, du tout. Ni à la science, mais il y en a certains qui acceptent volontiers de revêtir la casquette de l'expert, sont à la fois hommes un peu politiques, parce qu'ils disent aux hommes politiques ce qu'il faut faire, ils sont dans la recherche publique, où ils profitent de la manne publique, et en même temps, ils vont rentabiliser leur truc dans des start-up, et voilà, c'est aussi des hommes d'affaires, donc c'est... Et là, quand même, j'en ai rencontré, il y en a, c'est des sacrés morceaux, quand même. Hein, c'est des rouleaux compresseurs, après, hein, dans un conclave où on discute à quelques-uns. C'est difficile de s'opposer à ce genre de personnages. Mais le problème, c'est qu'il va avoir il va outrepasser, en quelque sorte, son savoir. Il va faire comme s'il savait, alors qu'il ignore beaucoup. Et ça, c'est problématique quand même. On lui demande d'ailleurs, on lui dit, enfin, il est expert, alors on lui dit, dites-nous, hein, c'est oui ou c'est non. C'est oui. Mais un scientifique honnête aujourd'hui, a priori, il devrait dire, plus on en sait, moins on en sait. Plus le savoir grandit, plus sa limite, sa frontière avec l'inconnu augmente aussi. C'est-à-dire que donc, véritablement, plus on en sait, et plus on sait qu'on n'en sait, qu'on sait rien. Donc le scientifique, normalement, honnête, devrait être extrêmement humble avant de dire péremptoirement, oui, on peut faire ça, oui, il faut aller dans cette direction, ça ne posera pas de problème, si ça en pose, on pourra les résoudre plus tard, tout va bien. Non, c'est
c'est une démarche, oui, qu'on connaît très bien.
Voilà. Oui, oui. Bon, on le connaît dans le nucléaire, on le connaît dans les biotechnologies. La deuxième temps de ma réponse, en fait, c'est que il y a une extraordinaire variété de nanoparticules. Le nanotube de carbone, par exemple, c'est pas le nanotube de carbone. Il y a énormément de facteurs, par exemple, est-ce qu'il est à simple paroi, double paroi, triple paroi, est-ce qu'il est fait, son diamètre, en quelque sorte, le nombre d'atomes qui constituent son diamètre, sa chiralité, c'est-à-dire il a une torsion, une légère torsion, elle est plus ou moins forte, ça paraît rien, hein, mais ils n'auront pas les mêmes propriétés, selon des toutes petites variations, de ces différentes caractéristiques. Ce sera donc pareil pour du C60, là, les fameuses fullerènes, des boules de carbone, d'atomes de carbone. bah, selon qu'il y a 60 atomes, 40 atomes, 80, 120, c'est pas du tout la même particule. Et donc, ces effets éventuels ne seront pas les mêmes. C'est pour ça aussi que, du coup, les industriels, ils vont dire, oui, bah, bop, 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 vous voulez étiqueter, mais ça ne veut rien dire. Vous allez faire peur aux gens, vous allez dire, bah, là-dedans, il y a des nanos, mais ça ne veut rien dire, puisque c'est, si c'est telle particule de nano-or, un cube de 8 atomes sur 8, ou bien de 9 sur 9, c'est pas le même. Et si on dit au consommateur, bah là c'est du haut machin, truc bidule machin, il va jamais pouvoir décrypter son étiquette. Donc, ils n'ont pas d'étiquette. C'est impossible. Il y a une norme ISO qui a été créée, 9600 et quelques, sur les nanoparticules, justement, qui d'abord essaie de dire qu'est-ce que c'est, une nanoparticule. Donc ce serait une particule qui aurait au moins une dimension nanométrique, et qui aurait une nouvelle propriété. Bon, voilà, on a à peu près une définition là, de ce que c'est qu'une nanoparticule. Mais ensuite, comment on la caractérise? Bon, on ne sait pas. Est-ce que ce qui est pertinent, est-ce que c'est sa taille, est-ce que c'est sa forme, est-ce que c'est son composant de base? On ne sait pas encore. Et ça se trouve, on va l'avoir pour 40 ou 50 ans avant d'avoir une nanoscience capable de d'à peu près mettre un peu d'ordre là-dedans, quoi. Parce que on a l'impression qu'on connaît le monde. Hein. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'on a d'un côté la mécanique quantique, qui est une science loin de ce que certains disent. Hein. C'est une science très très rigoureuse et qui permet de faire des calculs très très efficients. On a d'un autre côté Newton, et puis surtout Einstein, la relativité générale, pareil, là, ça nous permet de faire de présupposer l'existence de certains phénomènes astraux qu'on observe des décennies plus tard, bon, comme les anneaux de Newton, ou des choses comme ça, bon, super. Mais en fait, là, on se situe entre les deux, à ce qu'on appelle une méso-échelle, une échelle intermédiaire. Et là, bah, faire des calculs ab initio, c'est-à-dire à partir de la mécanique quantique, ben ça requiert, par exemple, pour savoir quelles vont être, sans la fabriquer, non, on va faire une boule de tant d'atomes sur tant, etc., par telle forme, on rentre tout ça dans une machine et on lui fait faire les calculs à partir de la mécanique quantique pour qu'on puisse prédire les propriétés de cette particule. Ben oui, il faut faire tourner un supercalculateur pendant 48, 96 heures et on n'est même pas sûr d'avoir un résultat. Alors on ne va pas le faire pour. On en invente tous les jours des nouvelles particules. Donc, non, c'est...
Ouais, vas-y. Juste une petite question technique. Tu dis, ces nanomachins sont produits de 4, 40, 50 atomes. Est-ce que c'est possible qu'au cours de route, ils perdent un atome? Est-ce que ce sont des chaînes quand même assez solide.
C'est très solide, c'est des formes cristallines, en fait, on va dire, en quelque sorte. C'est très solide, c'est des formes géométriques très simples, et elles se tiennent. Ce qu'envisage le chercheur...
C'est une mutation où, du coup, il manque un bout d'un génome et...
Non, c'est pas pareil. Non, là, les forces atomiques sont quand même des forces très très fortes. Hein. Les forces de liaison qu'il y a là sont impressionnantes. Le risque n'est pas... Ce que disent les chercheurs, c'est vous savez, ça reste pas longtemps à l'état de nanoparticules parce qu'elles vont s'agglutiner les unes aux autres et puis à la fin ça fait une grosse particule. Et c'est pas vrai non plus. Elles se recombinent pas. C'est juste un agrégat éventuellement de nanoparticules, mais ça crée pas une macroparticule pour autant. Mais par contre, l'idée qu'elles puissent se diviser. Je me souviens d'une chercheuse du CNRS une fois qui m'avait acheté mon film pour le diffuser devant un consortium de 400 chercheurs en Alsace spécialisés dans les nanotubes de carbone. C'était assez grotesque quand on s'est rencontrés dans une station de métro, sur un banc, station de métro. Ouais, c'est ça. On s'est pas vu, on se connaît pas. Et elle me disait, bon, on travaille à faire des nanotubes de carbone qui se dégradent, qui se délitent en petits atomes de carbone. Et c'est pas dangereux un atome de carbone. Mais c'est de la foutaise, je veux dire, Peut-être qu'un jour on arrivera. Mais non, la cohésion est telle que c'est inimaginable que spontanément, au bout d'un certain temps, le nanotube se défasse en petits atomes et puis hop. Non, c'est pas comme ça du tout que ça va se passer. Au contraire, c'est extrêmement pérenne. Extrêmement pérenne.
Bon, on va peut-être avant de lancer le débat. Donc, qu'est-ce que tu...
Oui, bah, c'est parti.
Je disais, je voulais juste te demander, il me semble, parce que j'ai vu ton film il y a longtemps, je n'ai pas regardé avant que tu viennes. Il me semble qu'il y avait eu des expériences où on retrouvait des traces de nanoparticules dans les intestins, quand le rat avait ingéré quelque chose.
Dans les intestins, dans les poumons, dans le cerveau.
Donc ça veut dire qu'on retrouve... On le retrouve dans les intestins, mais est-ce que c'est évacué après, on est sûr que c'est évacué ou ça reste dans notre corps?
Non, là en l'occurrence sur les rats, donc c'était une américaine qui avait fait cette expérience sur les rats, d'une université catholique, je ne sais plus laquelle. Non, c'est ça.
C'est partie intégrante du corps.
Oui, ça y reste, ça reste dans les cellules, oui, et ça crée des inflammations, c'est ça qui avait été observé par cette chercheuse. Après, ce qu'on a reproché à cette chercheuse, c'est qu'elle avait. Elle avait mis un peu trop de nanotubes de carbone à respirer ou à manger ou à ingérer pour les rats, donc c'était un peu exagéré. Mais le problème, c'est que cette expérience a été pas tellement reproduite. En fait, il faut voir, donc je parlais tout à l'heure des sommes colossales qui sont investies dans les nanotechnologies, c'est à peine 0,2% de ces sommes qui sont mises dans la recherche sur les problèmes de toxicité. Il y a un autre documentaire que le mien, mais qui est un peu plus institutionnel et financé et tout ça. Il a été financé à hauteur de 1 million d'euros l'épisode. Il y a eu 4 épisodes. C'est passé sur France 5 exactement 2 semaines après la clôture du débat public, du pseudo-débat public sur les nanotechnologies en 2009. J'arrive. Dans la dernière partie, on voit un toxicologue qui est interviewé. La dernière partie aborde enfin les risques. On a une première partie, bon, un peu qu'est-ce que c'est. Le troisième partie, c'est sur la médecine, hein, parce que quand même, waouh, si on va guérir des cancers, c'est quand même survalorisation. Et puis le cancer, hein, quand même, on est tous concernés, c'est flippant et tout. Et la dernière partie, c'est sur les questions que ça pose. Et un toxicologue est interviewé sur le pont d'un bateau, une croisière. Alors, ils sont en croisière entre toxicologues, je ne sais pas qui finance la croisière. C'est pas précisé. Franchement, c'est en fait, décrypter cet épisode-là, je crois que c'est hyper parlant. Parce que ça en dit long, mais c'est pas du tout l'intention de base, je crois, mais c'est effrayant. Et donc ce toxicologue, il dit, non mais attendez, vous voulez quoi? Vous voulez qu'on innove? Ou vous voulez qu'on fasse des recherches en toxicité? On peut pas faire les deux. Alors, si vous voulez de l'innovation, de la croissance, qu'on crée de nouveaux produits et tout ça, ne nous demandez pas de faire notre boulot. Hein. Enfin, voilà. En gros, il disait ça. Hein.
C'est pas de voix qui s'élève, quand même.
Je viens de le dire, l'Agence nationale de sécurité alimentaire et tout ça, elle dit, mais on devrait arrêter. Il y a des agences, même, tu vois, de type institution, qui disent ça. Hein. Il y a etc. Group, la RAFI, dont je parlais, eux, ça fait depuis le début des années 2000, qu'ils disent stop, stop, stop. Même dans les labos, stop. Parce qu'on ne sait même pas dans les labos comment les manipuler, ces machins-là. Stop. Voilà. Et ils sont allés interpeller à Johannesburg, ils sont allés interpeller à la Commission européenne, partout. Hein. Ils se démènent là-dessus. Et ils font de la contre-expertise et tout ça. Mais il n'y a pas assez de monde, effectivement, qui s'élève. Mais il y en a. Il y en a, heureusement.
C'est ça qui remène à une réflexion qui a fait le show. Raoul Génard sur le TAFTA, lui dit aux États-Unis, ils ont une autre philosophie. On va le produire et si jamais ça causera un problème, on va trouver une solution plus tard. On va le produire, on va l'utiliser. Et si jamais ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à fondre une contre-association qui rassemble des sous pour faire un procès.
Ils sont
Alors, il se trouve que c'est drôle parce que par exemple, les Américains refusent de signer le protocole de Kyoto sur le réchauffement climatique pour réduire les gaz à effet de serre ou des choses comme ça. Parce qu'ils disent justement on va pas arrêter de produire, on va continuer et on va trouver des solutions techniques. Et parmi les solutions techniques, les nanos sont employés. Et, il s'agit par exemple de diffuser dans la stratosphère
Ça leur appartient pas quand même. La stratosphère.
Non, ça leur appartient pas.
Pas encore.
donc, donc, Donc là, c'est la nanométrie, mais c'est une nanoparticule, c'est laquelle. C'est pas du dioxine, c'est du titane. Non. Bref, c'est une nanoparticule qui veulent épandre dans l'atmosphère de façon à réfléchir davantage les rayons du soleil. Alors, c'est déjà fait à titre expérimental, hein, au moins, de manière officielle. On sait que c'est fait de manière expérimentale.
Au-dessus d'Afrique.
Oui, ou au-dessus de la Nouvelle-Zélande et tout ça. En fait, il s'agit d'un processus géologique. C'est-à-dire que quand il y a eu d'autres périodes de réchauffement climatique, l'activité volcanique et autres ont fait que ce genre de nanoparticules se sont retrouvées dans la stratosphère et ont effectivement contribué, mais sur des temps géologiques, à refroidir la planète.
Et naturellement.
Naturellement. Voilà. Là, les Américains disent, bah, on va juste aller un peu plus vite que la musique. Et,
on va dominer la nature.
Voilà. C'est ce qu'on appelle la géo-ingénierie. C'est-à-dire l'ingénierie de la planète. Il y a une autre expérience qui est faite, c'est de lâcher des nanoparticules de fer dans les océans de façon à stimuler le plancton favorisant les échanges entre l'atmosphère et l'océan pour qu'il y ait davantage de CO2 qui soit absorbé par les océans. C'est également fait de manière déjà expérimentale, quand même à bonne dose. Les amis de la Terre, Nouvelle-Zélande, ont réussi à obtenir un moratoire, mais le moratoire était local. Hein, c'est-à-dire que bon, bah, à cet endroit-là, on ne le fait pas. Il y a des gens qui s'élèvent, hein, les amis de la Terre, entre autres, ces groupes. Mais ces expériences sont faites. Ouais, les Américains, c'est leur façon de voir les choses, effectivement. On va trouver des solutions.
Mais on aurait un moyen de réagir, mais de boycotter tout ça, mais on n'a pas d'informations là-dessus.
Vous ne pouvez pas boycotter...
On ne peut pas tout boycotter.
La dissémination de nanoparticules de fer dans l'océan, ça, vous ne boycottez pas ça. Hein.
Dans notre vie de tous les jours, on pourrait, mais on n'a pas l'info.
Là, vous pouvez pas.
On n'a pas l'info.
Vous ne savez pas si dans vos chaussures, ou dans votre paire de lunettes, tout ça, ou dans la crème que vous utilisez, il y a ou pas des nanoparticules.
Tout ce qui devient performant et soupçonné.
On peut toujours décrypter les étiquettes, justement, comme je disais. Et on peut aussi trouver sur Internet des listes des nanoproduits qui sortent chaque année et tout ça. Donc on peut s'informer, hein. On peut essayer de... Parce que c'est pas en bouffant bio ou en achetant des matériaux écologiques qu'on les évite, hein. Attention. Il n'y a rien qui contredit le fait de mettre une étiquette éco-machin et le fait que ça contienne des nanoparticules. Il n'y a pas de contradiction.
Si vous voulez, on peut peut-être faire une petite pause avant de continuer à lancer le débat.
Boire un coup.